Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard, le plateau du Sénégal.
Watch the best. Yola, yola, yola. Yine sana holnaktamala. Of this sakka full magic. Dama sansi bardagala. Dama feel bagala jo. Sama hol binaktamala.
Merci beaucoup Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, échanger, dialoguer. Et bien sûr Richard, ce sont les fêtes de fin d'année là. Ouais, je vois que les magasins sont pleins, les gens sont motivés.
Oui, bonjour Lamine.
Voilà, donc c'est une période d'excitation. Et oui, c'est
la
Noël.
La frénésie des achats.
Voilà, mais pourtant ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais, mais moi, à un moment donné, il faut que je comprenne. Les gens, ils n'ont pas d'argent, mais ils achètent tous les magasins. Bon, mais écoutez, faites-vous plaisir. Hein, c'est le moment de vous faire plaisir. Mais en attendant, ben écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal. Richard, désormais, le Sénégal a institué le 17 décembre, journée de la diaspora. Voilà, donc parce que la diaspora sénégalaise, en tout cas, est, on va dire, très, très, très active sur le pays, hein, parce que nous participons à hauteur de 10% donc, du produit intérieur brut. Nous envoyons, je me rappelle quand j'étais invité à la télévision il y a 10 ans, à l'époque, je disais que nous, Sénégalais, on envoyait 2 milliards de francs CFA par jour au Sénégal. Aujourd'hui, Richard, nous en sommes à 6 milliards par jour au Sénégal. Voilà, donc cela veut dire que ces Sénégalais, ils pensent beaucoup à leur pays, ils investissent. Donc je trouve que c'est très normal que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement puissent instituer désormais par décret cette journée du 17 décembre, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Hein, parce que c'est vrai, il y a eu les discours, il y a tout ce qu'il faut, c'est très bien. Mais les Sénégalais se font toujours encore arnaquer et truander, nous les Sénégalais de la diaspora. Voilà, si je fais une émission pour inviter les Sénégalais, le nombre de Sénégalais qui se sont fait arnaquer pour des achats de terrain, des achats de maisons, pour des business qu'ils ont voulu mettre en place, etc., etc. Mais vous allez voir que tous les Sénégalais se sont fait plumer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir mettre un environnement juridique, quelque chose en tout cas pour pouvoir les protéger. Mais bon, on pourrait revenir sur tout cela. Et aussi, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Eh oui, donc qui commence dès demain, donc c'est le Maroc, voilà, qui est en tout cas notre pays hôte, avant de parler bien sûr de notre, enfin de Donald Trump, hein, Donald Trump qui fait encore, en tout cas qui ferme encore les frontières à certains pays, à beaucoup de pays, dont le Sénégal d'ailleurs. Ah oui, bon, mais comme j'ai dit, il y a assez de supporters de Sénégalais à New York pour aller supporter, pour gagner contre la France. Voilà, mais bon, à un moment donné, peut-être il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que les États-Unis devaient organiser cette Coupe d'Afrique, Coupe du Monde? Est-ce que la FIFA elle-même joue le jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains qui ne se font pas respecter aussi par la FIFA? Parce que nos joueurs, on devait les récupérer tous les jours de la Coupe d'Afrique, 15 jours avant. Finalement, ils ont dit une semaine avant. Et finalement, il y a même un club de Sunderland qui va lâcher un de nos joueurs aujourd'hui. Donc finalement, ils font ce qu'ils veulent. On a un joueur, Hassan Diaw, qui joue en Italie. Fabregas, l'ancien joueur donc, de Monaco, etc., de l'équipe nationale d'Espagne, lui n'a pas voulu le lâcher. Il l'a mis sur le terrain et le jeune, il s'est blessé. Alors que c'est lui qui disait que le jeune ne devait pas aller jouer pour l'équipe du Sénégal parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt et vous le mettez dans le terrain. Bon, voilà. Il y a tellement de choses qui vont nous énerver. Mais bon, en attendant quand même, je voudrais qu'on parle de littérature. Voilà. Donc, on va parler littérature avec Corinne Chandra Diallo qui est sur le plateau, qui est une intellectuelle diplômée de Sciences Po, diplômée de l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Vous êtes également diplômée de l'école des hautes études de sciences sociales et vous êtes également professeur d'histoire de géographie. Vous êtes auteur, compositeur et interprète. Est-ce que Chandra Diallo, j'ai fini ma liste ou bien il y a des choses que j'ai oubliées?
Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe et aussi à celles qui sont ici avec nous sur le plateau. En fait, je pense que comme beaucoup d'enfants de la diaspora, c'est un peu une caractéristique qu'on soit multicorde et multitâche.
D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, je vous reçois.
Et aussi, excusez-moi, parce que j'ai remarqué aussi, en voyageant en Afrique, que c'était bien souvent le cas, que les enfants de l'Afrique ne se contentent pas de faire une seule tâche, mais d'explorer plusieurs aspects. Les musiciens, par exemple, peuvent être à la fois des conteurs, des danseurs. Voilà.
Mais vous avez justement plusieurs. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on le dit, plusieurs cordes à son arc, voilà. Vous en avez. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir avoir ce panel très large?
Ben justement, c'est ce que je disais, c'est que je pense que c'est intrinsèque déjà à l'être humain. Comme vous le savez aussi, je suis professeure d'histoire-géographie et je constate que le savoir scolaire ne réduit nullement les enfants. En réalité, c'est vrai qu'à l'école, on apprend un seul type de savoir et de manière de voir le monde, mais en réalité, les enfants ont plein de potentiels différents. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est étudié par les sciences sociales. On parle d'intelligence multiple. Et tout être humain, en fait, en réalité, a besoin d'explorer ces différentes intelligences. Non pas toutes, hein, mais je pense qu'un être humain équilibré et épanoui, c'est quelqu'un qui peut partager ce qu'il a de meilleur en lui et apporter sa petite contribution au monde.
D'accord. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, je rappelle à tous nos auditeurs que j'invite Kondrine Chandra Diallo, qui a écrit des livres, dont le livre dont on va parler aujourd'hui, Diane et les images. Et Diane et les images, donc, qui vient de sortir, hein, c'est ça, Corinne?
Oui, alors pas tout à fait. C'est sorti en 2019. Ensuite, il y a eu une réédition avec une maison d'édition qui est bien connue en Afrique de l'Ouest, qui est la Sahélienne, qui est vraiment une. Je voudrais saluer le travail de son directeur, hein, parce qu'il a fait vraiment connaître beaucoup d'auteurs ouest-africains. Et à cette occasion, on a postulé pour le prix Union européenne du premier roman. Et puis
que vous avez gagné.
Ce roman l'a gagné, effectivement. Et voilà.
Et donc, justement, qu'est-ce que ça vous fait, justement, de gagner ce prix? Avec, j'ai lu le livre en tout cas, j'ai presque fini à 3h30 du matin. Hein. J'ai pas dormi parce que j'ai pas eu le temps toute la semaine. Voilà. Et déjà, rien que ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est Diane et les images. Mais moi, j'ai l'impression qu'il fallait peut-être titrer ce livre Maman Azizé.
Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que Maman Azizé, elle est très, très importante dans ce livre. C'est peut-être le premier ou le deuxième personnage. Et comme en même temps, c'est l'histoire d'une transmission, finalement, entre cette vieille maman et la jeune adolescente déracinée et blanche en apparence qu'est Diane, finalement, il y a un passage de relais. C'est pour ça que finalement, le titre s'appelle Diane et les images. C'est ce passage de relais des aînés vers leurs descendants, les afro-descendants de la diaspora. Et la question, c'était quoi?
La question, déjà, qu'est-ce que ça vous a fait de gagner ce prix? Voilà. Et allez-y d'abord.
C'était important. En fait, ce qui était beau, c'était que c'était un prix qui a été remis à Bamako. Et je suis
à Bamako, au Mali?
Au Mali. Alors, je suis originaire du Mali par mon père, Djibril Diallo. Et en même temps, j'ai aussi de la famille sénégalaise, donc je salue aussi les auditeurs sénégalais. Et vraiment, voilà, on est tous reliés en fait. Sauf que je suis née à Paris, dans le 12e. Comme on entend, je pense à ma voix, j'ai vraiment grandi ici. Je suis une afro-descendante de la diaspora. Dans un premier temps, j'ai été très déracinée parce que je n'ai pas été élevée par mon père qui, lui, vivait à Bamako, au Mali, mais par ma mère. Et ma mère elle-même, c'est une métisse entre le Gabon, le Cameroun et l'Italie. Mais à l'âge de 10 ans, elle a dû quitter le Congo où elle est née. Donc, on est vraiment un melting pot de l'Afrique, mais en même temps, on a été déracinée. Et ma mère, elle a été arrachée à ses origines africaines parce que sa mère, qui était camerounaise et gabonaise, est morte quand ma mère avait 2 ans. Et donc, c'est mon grand-père, qui était blanc, qui l'a élevée. Il a dû négocier pour la garder, de donner des maisons, parce qu'au Gabon, les enfants appartiennent, c'est matrilinéaire et matriarcal, donc ils appartiennent à la mère. Donc il a dû négocier et ensuite il a vraiment arraché à sa famille. Et ensuite, comme beaucoup de métis, elle a été déracinée et élevée dans le monde occidental. Donc finalement, que ce livre qui parle aussi de cette histoire de la colonisation, du déracinement de la diaspora, de comment trouver un chemin de réconciliation finalement dans toute cette histoire, et ben que ce livre soit primé à Bamako, ben pour moi c'était formidable, c'était retrouver ce lien avec l'Afrique.
D'accord, vous venez de le dire, vous êtes issu donc de plusieurs cultures africaines, plusieurs cultures même européennes, voilà. Et d'ailleurs, j'ai senti qu'à travers votre roman on sent le besoin d'enrichissement né peut-être de votre métissage venant d'horizons divers. Est-ce que je me trompe ?
Vous avez complètement raison, Lamine, et bravo pour la clarté de vue et de compréhension. Mais complètement, parce qu'en fait, vu le nombre de métissages qu'on a dans la famille, c'est tout un patrimoine à la fois culturel. Et en même temps, nous, le patrimoine culturel dans ma famille, on ne l'a pas tellement reçu parce que justement, on a été déracinés. Mais néanmoins, aujourd'hui, la science montre qu'on a ces mémoires qui sont même dans nos cellules. C'est les mémoires cellulaires. Hein, aujourd'hui, c'est une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique qui montre que même quand on n'a pas reçu l'éducation, ça vit en nous quelque part. C'est tout un patrimoine et même un matrimoine. Et il se trouve, c'est aussi l'un des sujets de ce livre, parce qu'il se trouve que moi, même si j'étais très occidentalisée, à partir de l'adolescence, j'ai commencé à avoir des nouvelles perceptions qui se sont ouvertes, à avoir accès à des connaissances qui ne venaient pas de mon éducation. J'étais au lycée, je faisais Hippocane, je faisais un parcours très, comme vous l'avez dit, très scolaire, intellectuel, avec Sciences Po, l'école des hautes études. Mais j'avais une autre partie de moi qui était très différente, qui avait des présciences, qui avait des flashs, qui avait des moments de médiumnité, qui m'ouvrait tout un univers, y compris du côté de l'Afrique, du côté aussi de mes lignages, de mes ancêtres européens. Et je ne pouvais pas en parler. C'était au-delà des mots, c'était des rêves, c'était des songes qui me montraient d'où venaient mes ancêtres. J'avais mes ancêtres qui remontaient jusqu'à la Russie. On me faisait dans les rêves, j'avais des rêves, on me prenait le train jusqu'en Russie, on traversait l'Europe de l'Est. Après, j'ai appris qu'effectivement, j'avais tout un lignage du côté de mon grand-père blanc, qui n'était pas seulement italien, mais qui venait de l'ancien empire austro-hongrois. Mais ça, je ne le savais pas, ça me venait dans les rêves. Pareil pour mes ancêtres éthiopiens, ils venaient me parler. Et ça, l'éducation que je recevais était complètement contraire à tout ça. Et donc, du coup, à l'âge de 20 ans, sans même réfléchir, c'était un appel des ancêtres, avec une copine, avec les petites économies que j'avais l'été, je venais d'avoir mon diplôme de Sciences Po, on s'est embarqué pour aller à Bamako. Et à ce moment-là, mon père, qui était un homme politique, venait d'être emprisonné.
Ah, votre père est engagé au Mali?
Ah, mon père, c'était un ancien ministre, mais je n'avais pas grandi avec lui, je le connaissais à peine.
D'accord.
Et quand j'ai débarqué comme ça à Bamako, moi je ne connaissais personne, Mais j'avais cet appel des ancêtres et c'est comme ça que l'aventure a commencé pour renouer avec mes racines africaines.
Aujourd'hui, quel est votre regard sur justement vous qui avez fait Sciences Po, vous qui venez de le dire que votre père était ministre au pays, quel regard avez-vous sur justement le pays de vos ancêtres?
De quel point de vue, l'ami?
Point de vue, que ce soit politique, que ce soit la métisse que vous êtes, voilà. Vous qui avez débarqué, vous avez grandi dans ces pays-là, oui. Voilà. Donc, dès que vous êtes arrivé, mais quel est le regard que vous avez eu par rapport peut-être à votre père, qui a quand même une position centrale au niveau du Mali, vous qui êtes une métisse qui avez débarqué là-bas, quel a été le regard voilà, qui vous a été jeté, entre guillemets?
Mon premier regard, quand j'ai débarqué à Bamako, j'étais presque dans un état second, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait l'énergie qui commençait à s'activer, alors que je ne connaissais pas cette terre. C'est comme si cette terre m'accueillait, ça vibrait de partout pour moi et j'étais presque dans un état second, tellement c'était très très fort tout ce que je vivais. Même mon corps se transformait, j'avais beaucoup de songes, de flashs. Je n'étais plus moi-même, ça a été très très transformateur. Et après, avec mon ami, on a voyagé, on a été à Mopti, on a été à Djéné, on a été à Bandiagara. Et j'ai été vraiment enchantée par la beauté de ce que j'ai découvert. Je sentais vraiment la terre, l'appel de la terre, et c'était d'une beauté. Et je ressentais tout le côté antique, c'est-à-dire des civilisations très, très anciennes. Et je voyais la beauté de ces civilisations que je ne connaissais pas, parce que ça m'avait été caché. Et j'adore, j'étais transportée quand je voyais... on voyait des étendues de terre couleur sable sous le soleil. On voyait le Niger et les bergers peuls qui avançaient hiératiques avec les troupeaux. Ou alors la lumière du soleil sur les cités de sable. Enfin, j'étais complètement fascinée. Hein. C'était magnifique.
Et politiquement, il y a quelque chose qui vous a inspiré?
Alors politiquement, c'était compliqué parce qu'il venait d'y avoir une révolution. C'était l'époque où Moussa Traoré avait été emprisonné. Et mon père, en fait, avant cette révolution, avait voulu mettre en place un mouvement réformateur pour démocratiser les institutions. Il était d'ailleurs populaire à cette époque-là. Mmh. Il avait démissionné parce qu'il n'avait pas été entendu. Et ensuite, tout le monde, il y avait eu les mouvements étudiants et tout le monde s'était retrouvé en prison, mais pas mon père. Mais au dernier moment, par solidarité, il a décidé de les rejoindre quand même. Et finalement, il a été emprisonné, bien que pour lui, il n'était pas d'accord avec le fait qu'on ne démocratise pas les institutions. Donc, c'était cette période de changement. Et ensuite, il y a eu des changements politiques et qui, finalement, ont énormément déçu le peuple parce que les régimes en place avaient été mis en place par la France. Il ne faut pas oublier qu'avant, à l'époque socialiste, le Mali était dans le giron de l'URSS. Mmh. Et donc ensuite, ça a été des gouvernements qui ont été dans le giron de la France. Et puis récemment, cette époque est maintenant de nouveau révolue. Alors j'avoue que moi, je ne suis plus trop la politique, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un vent de renouveau en ce moment sur le continent. C'est un peu trop tôt pour savoir ce qui va en advenir, mais on a le sentiment qu'il y a quand même une reprise... quand même un désir de reprendre sa souveraineté en main, quoi. Et ça, moi, je souhaite vraiment, vraiment aux peuples africains, au pluriel, de pouvoir reprendre leur souveraineté et pouvoir mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place en étant libres, indépendamment des pressions extérieures, quoi. Ça, bon. je souhaite de tout cœur. Et que la prospérité revienne, parce qu'on a un des continents les plus riches de la planète. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait cette pauvreté. Hein. C'est...
Bon. En tout cas, nous espérons avoir des dirigeants à la hauteur de l'espoir que suscite, en tout cas, l'attente des peuples africains, en tout cas, au Sénégal, il y a un vent qui a soufflé. Hein, voilà,
voilà
a...
exactement. Donc vraiment, je souhaite vraiment la paix, la prospérité aux Sénégalais et à tous les peuples d'Afrique.
D'accord. Bon, en tout cas, juste avant de... Parce que Richard, ça va très très vite.
Et hein. Ça va vite.
Voilà. Mais quand même, on va donner la parole un peu à... vos amis, donc il y a Cathy qui est là, Marie-Rose Friguère que nous allons inviter prochainement. Voilà, si vous pouvez prendre le micro, Marie-Rose. Voilà. Donc, Cathy Diatta, ça me fait plaisir donc, de t'avoir sur nos ondes. Alors, qu'est-ce que tu as pensé justement de tout ce que Diane. Corinne Chandra, Diane, c'est le titre du livre, Diane et les images. Voilà, donc contre Initiatique d'ici et là-bas. Cathy, qu'est-ce que tu penses justement de tout ce que Corinne vient de nous dire?
Je dis bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci, Lamine, de nous recevoir.
Merci beaucoup. Ouais.
Merci beaucoup, vraiment. Tu nous prends du temps. Sachant qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations.
Mais ça commence demain.
Il y a aussi la politique, il y a aussi l'actualité sénégalaise, il faut en prendre compte. Bon, ben Chandra, ben, là, honnêtement, je suis vraiment, par rapport à tout son discours, elle a fait un retour aux sources, en fait. Elle est très, en fait, Chandra, bon, je la connais personnellement, on va dire. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'Afrique, à ses origines. Elle a aussi des origines européennes, on va dire, des origines africaines. Et elle a très bien décrit sa famille. Elle a très bien décrit tout ce qui est afrodescendant, tout ce qui est la culture. Après, bon, elle a un parcours que je ne vais pas... elle a dit son parcours qui est vraiment... C'est quelqu'un qui... Elle me touche parce qu'elle est aussi musicienne. Je ne sais pas si tu as dit que tu étais musicienne.
Elle est multitâche.
Voilà. Elle a un métissage vraiment. En fait, ce qui fait la richesse de Chandra Diallo, c'est son métissage en fait. Et l'avenir, c'est le métissage.
Voilà. Il faut qu'on s'enrichisse de notre diversité. Voilà. En tout cas, elle l'a bien mise en place.
Voilà. Donc, je n'ai pas trop m'éterniser. Donc j'ai fait venir Chandra Diallo et j'ai fait venir aussi qui s'est présenté et j'ai fait venir aussi Marie-Rose Frigère qui va se présenter.
Voilà, bonjour Marie-Rose. Donc bonjour. Vous serez notre invitée, on va dire, samedi prochain.
Ouh.
Si vous êtes disponible. Sinon, bien sûr,
c'est
on s'arrangera.
C'est quelle date, samedi? Je vous avoue que je suis un peu en déphasage total.
Donc plus 7 jours, ça fait 27.
Le 27. J'accepte bon, volontiers cette
voilà,
invitation.
Ici, c'est Radio Galère, on fait les invitations directes.
D'accord. Voilà, donc. C'est un super cadeau de Noël que vous me faites, Lamine, et merci beaucoup. Merci, Cathy. Merci pour cette invitation. Merci Chandra. Merci et bonjour à toutes les auditrices, auditeureuses du Sénégal et Marseille. Voilà.
Bon, ben en tout cas, voilà, j'avais prévu donc de vous inviter, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, 30 minutes, c'est court pour avoir deux invités pour pouvoir bien parler. Donc voilà, aujourd'hui, c'était Chandra.
Oui.
Et si vous êtes disponible, comme je dis, samedi prochain, donc on discutera de vos activités. Donc, Chandra, juste pour finir, quelle est la suite de vos investigations, du retour aux sources, quelle est la suite?
Oui, alors quelle est la suite? Déjà, si on pouvait un tout petit peu parler du roman, parce que voilà, et parce qu'effectivement, je viens de terminer en quelque sorte le deuxième volet.
D'accord.
Qui peut se lire indépendamment de Diane et les images, mais qui a des liens parce qu'on va retrouver aussi des personnages de Diane et les images.
On va retrouver Hélène, Azizé.
Alors on va retrouver Diane.
D'accord.
Parce que justement Diane, au terme de son parcours initiatique sous le patronage d'Azizé, va faire quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'elle va aller s'installer justement sur le continent africain et elle va assumer certaines missions de vie qui lui sont dévolues du fait de sa position carrefour.
Mais justement, est-ce qu'il y a un lien entre Diane et Chandra Diallo?
Bah, vous savez, quand on écrit, on est tous les personnages en réalité. On est tous
les
personnages.
J'ai l'impression que c'est un livre autobiographique.
Mais il y a des aspects qui sont autobiographiques et d'autres qui sont complètement inventés.
D'accord.
Parce que, par exemple, Azizé... Alors, on va peut-être un peu expliquer l'histoire, parce
Allez-y.
Que sinon, pour les auditeurs, ça va être compliqué à suivre.
Mais c'était pour les inciter à acheter le livre.
Ah hein. Ouais, tout à fait.
C'était ma manière
oui.
un peu...
En fait, par rapport à ton livre, là,
oui,
hein,
oui.
Que j'ai acheté, par moment, j'ai l'impression qu'on est dans un conte. C'est toi si tu.
Oui, c'est
tu
vrai,
vois,
parce que dans le sens de la tradition des contes, c'est-à-dire que les contes ont à la fois une fonction un peu philosophique, d'enseigner certaines sagesses, guérisseuse aussi. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une fonction thérapeutique. Donc, il y a un côté symbolique. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas complètement autobiographique, mais il y a des aspects autobiographiques, parce que je me suis inspirée de notre histoire familiale. Donc, en gros, l'histoire, c'est Azizé est une guérisseuse très âgée qui vit dans une presqu'île paradisiaque, quelque part. Alors là, je me suis inspirée du Gabon, que je connais bien aussi. Et elle soigne les gens avec de l'eau de mer, avec ce qu'elle trouve sur la plage. Et c'est une grande guérisseuse et une devineresse. Et un jour, dans l'eau de mer, elle voit la silhouette de deux adolescentes qui sont en très grande souffrance et qui ont l'air d'être blanches de peau. Mais paradoxalement, dès qu'elle les voit, elle comprend qu'elle a un lien biologique avec elles, malgré leur apparence occidentale, et qu'elle doit partir pour absolument aller les aider parce qu'elles sont en très grande difficulté. Et donc c'est un peu construit comme un polar parce qu'on va comprendre comment Azizé va les retrouver, elle va se faire passer pour une domestique, s'introduire dans la famille et aller aider ces deux jeunes adolescentes. Et sur les deux jeunes adolescentes, il y a Hélène qui est la cadette qui est en très grande difficulté parce qu'elle a subi des très gros traumatismes. Et il y a Diane qui sont, toutes les deux sont au début du livre, sont dans un internat. Et où elles se sont réfugiées quelque part pour échapper aussi à leur traumatisme. Et Diane veille sur la cadette. Et en même temps, Diane commence à voir s'éveiller en elle tout un monde, tout un patrimoine qui lui est inconnu, étant donné son éducation occidentale. Donc c'est là qu'on va trouver l'aspect autobiographique. Et les seuls moments où elle peut se ressourcer, c'est quand elle va se promener dans la forêt, parce qu'elle découvre qu'elle a un lien vraiment très étroit avec le monde des arbres, avec le monde de la forêt. Et en même temps, elle va s'y ressourcer, mais en même temps, elle est traversée par des images, par des expériences de l'invisible qui la perturbent énormément parce qu'elle ne sait pas comment faire avec. Et donc, à la fin du livre, on va voir comment Azizé va les retrouver, va les aider et va faire une transmission à Diane. Et donc, dans le deuxième roman... c'est mon troisième livre, hein, le deuxième roman, celui que je vais bientôt publier. On va retrouver Diane, on va voir ce qu'elle est devenue. Elle va venir en Afrique et compte tenu de tout ce qu'elle a reçu, bah, elle va à son tour donner quelque chose à l'Afrique. Elle va créer un hôpital parce qu'elle est devenue médecin. Elle va aider les enfants des rues. Elle va faire beaucoup de choses. Parce que le grand message qui passe à travers ces histoires, c'est de trouver cette voie de guérison, cette voie de réconciliation aussi par rapport à cette histoire douloureuse qu'a pu être la colonisation, l'esclavage. Et c'est toujours une voie par le haut. Et c'est une voie qui passe par l'amour, en fait. C'est en ça qu'Azizé est un modèle. Parce qu'Azizé, c'est ce qu'on appelle une maman avec un grand M. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans l'amour inconditionnel. Et
elle cuisine très bien en plus.
Elle cuisine très bien, c'est vrai. Parce qu'elle fait passer son amour aussi dans sa cuisine. En fait, tout ce qu'elle touche est lié à l'amour. Donc tout ce qu'elle fait, eh ben, c'est bon. Voilà.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup Corinne Chandra Diallo pour ce livre,
avec
Diane
plaisir.
Et les images.
Je
merci.
Peux dire où on peut le trouver quand
oui,
même.
Oui, bien sûr. Ici,
alors,
c'est une radio libre.
Eh ben, génial. Alors, En 2026, on pourra le trouver sur Amazon. Désolé,
bon, c'est ce qu'il y a de plus... La radio galère m'écoute, pardonnez-nous.
C'est ce qu'il y a de plus facile actuellement pour les écrivains. Mmh. Parce que maintenant, ça va passer en auto-édition.
D'accord.
Donc, Amazon. Et sinon, actuellement, ça peut aussi se commander directement sur mon adresse mail.
Donnez-nous
pour Noël.
L'adresse mail, c'est mieux. Ouais.
Voilà, donc c'est Chandra. Chandra, Chandra, Chandra.dialo, Diallo, @gmail.com.
Voilà, je pense que sur ça, je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Voilà. Cathy, peut-être le mot de la fin?
Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, la prochaine fois, tu vas recevoir, donc, on a dit Marie-Rose Frigère. Après, pourquoi pas, Chandra Diallo, qui est musicienne, pourquoi pas une autre émission? Parce
bien
que Chandra
sûr.
Diallo qui est là, c'est une musicienne, pourquoi pas? Dans votre page musicale, vous allez entendre Chandra Diallo qui joue des instruments. On va voir.
Bon,
on laisse le mystère.
Ce sera avec grande joie, puis je tiens à remercier encore une fois Cathy et Marie-Rose, dont j'ai pu voir le travail, et je pense que ça va être une émission aussi très passionnante. Je suis désolée que tu n'aies pas pu parler aujourd'hui, mais...
C'était vraiment super passionnant de t'écouter, surtout.
Ben justement,
je sais que ça va être le cas.
Marie-Rose, tu peux nous dire justement, vous pouvez nous dire de quoi on va parler samedi prochain, par exemple.
En fait, pour rebondir aussi avec ce que disait Chandra par rapport à son roman ou... Moi, il s'agit en fait d'un roman photo. C'est pas un roman en image mentale. C'est un roman où vous allez voir, où on peut voir en fait des photographies d'une femme africaine faites par une femme, ce qui est complètement à l'inverse en fait du système photographique qu'il y a eu dans les anciennes colonies. Parce qu'Aphrodite, ça se prononce et ça s'entend comme la déesse, un peu comme Diane. Bien évidemment, la déesse de la chasse. Là, c'est plutôt la déesse de l'amour.
Exactement.
Et donc, Aphrodite, en fait, pourquoi ce titre? Parce qu'il s'agit de la disparition d'une statue. Et généralement, des statues, comme vous le savez, généralement qui représentent des empires, sont des allégories de femmes. Et donc là, il s'agit en fait de la disparition d'une statue d'allégorie des colonies d'Afrique que l'on peut trouver dans plein de capitales européenne, ancien empire colonisateur.
Merci beaucoup à trois. Merci Chandra.
Merci Lamine.
Merci Cathy. Et revenez quand vous voulez.
Merci de tout cœur, Radio Galère. Merci Lamine.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fête.
Merci également.
Bonne fête de fête.
Très bonne fête.
Merci. Merci. Voilà, bonne fête à vous. Richard, donc un peu de musique. Le temps qu'on revienne après sur l'actualité politique. Es un... Merci beaucoup, Richard. Merci, Chandra, Corinne Chandra Diallo. Merci, Marie-Rose. Merci à Cathy. Voilà, elles ont mis le feu sur le plateau. Vraiment, le roman de Chandra Diallo, vraiment, c'est assez poignant. Donc, si vous pouvez, hein, elle a donné son adresse mail et l'autre site que je n'ose plus dire, où vous pouvez trouver les livres, Yann et les images, donc aux éditions La Sahélienne. Mais c'est un livre assez poignant. Voilà, donc les téléphones donc, sont bien ouverts, 04 91 028 10. Richard, comme j'ai dit, la Coupe d'Afrique, maintenant on a un programme chargé. Voilà, la Coupe d'Afrique démarre dès demain avec un gros match. Voilà, Maroc, pays organisateur. D'ailleurs, le Maroc qui a gagné la Coupe arabe. Le Maroc vraiment est hyper favori de, cette Coupe d'Afrique. Hein. Ça, vraiment, voilà. Et bien sûr, quand j'ai fini par le Maroc, bien sûr, je mettrai le Sénégal. Mais là, il va falloir vraiment aller avec les tripes, pas seulement avec le talent. Toutes les équipes africaines sont talentueuses. Demain, vous allez voir les îles Comores. Voilà, notre ami Kadhafi n'est pas là. Mais les îles Comores donc, vont découdre demain contre le Maroc, pays organisateur. Et les îles Comores donc, ont fait une belle progression. En tout cas, ils ont montré de belles choses lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et ils sont en tout cas très, 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 très motivés. Et c'est des belles équipes, Richard.
Lamine, mais c'est diffusé à quelle heure, sur quelle chaîne?
Voilà, donc toujours avec tes questions pièges, avec toi, je me prépare. Oh,
parce
tout,
que comme tu me dis, c'est demain, donc je sais que tu as toutes tes infos.
Voilà, Richard, pour être complet, demain, donc à 20h, 20h ici, heure de France, Maroc-Comore, ça sera en direct sur, je ne sais pas, est-ce que Radio Galère va m'en vouloir, Bein Sport, hein, voilà, ah. qui va sortir tous les matchs.
Ah, c'est sur les chaînes commerciales.
Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et, putain, ils vont me taper sur les doigts. Voilà, et Richard, même pour être plus complet, ce sera au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Voilà, donc le camp donc, du Maroc. Et lundi à 15h, Mali-Zambie. Et oui, pour ceux qui travaillent, du courage. Bon, ça va, moi je suis en télétravail, donc...
on peut regarder sur les téléphones.
Voilà, si, t'as raison, on peut mettre les trucs en sourdine, voilà. À 15h, Mali-Zambie, à 18h, Afrique du Sud, Angola, voilà. Et à 21h, Égypte, Zimbabwe. Et le mardi, Richard, c'est le mardi du Sénégal. À 13h30, il y aura Congo-Bénin. À 16h, Sénégal-Botswana, à Tanger. À 18h30, Nigeria, Tanzanie. 21h, Tunisie, Ouganda. Voilà. Donc après, vous verrez le reste. Hein. Burkina Faso, Guinée le mercredi. Algérie, Soudan, Côte d'Ivoire, Cameroun. Bon, voilà, il y a toutes les équipes, voilà, qui vont se régaler. En tout cas, oui, Richard.
Lamine, tout à l'heure, tu parlais, tu disais que les joueurs africains étaient bloqués dans des équipes européennes. Ils auraient pu se mettre en maladie une semaine, 15 jours, je ne sais pas.
Bon, après, c'est trop gros, quoi. Quand ils se mettent en maladie, voilà, hein, y a quand même les médecins qui sont là, qui regardent, etc., etc. Mais bon, je pense que c'est très grave quand on doit aller jusque-là, hein, à un moment donné. Medoun en parlait. D'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement, Medoun. Voilà, Dienne depuis Toulon. En ce moment, il y a la grippe, Richard, qui est dans toute la France. Tout le monde est malade.
Eh oui, c'est la saison, là.
C'est la saison, voilà.
Plusieurs variants, je crois.
Et c'est ça. En plus, si on a des enfants, alors là, les enfants vont le prendre à l'école. Après, ça passe par la crèche. Après, au foot. Après, ils l'amènent à la maison. Eux, ils sont en général plus costauds. D'où les parents ont des fracas. Bon, voilà. En tout cas, on vous souhaite à tous un prompt...
rétablissement.
Voilà, un prompt rétablissement. Voilà, et puis Richard, c'est vrai que quand Medoun disait ça samedi dernier, que les pays de la FIFA ne nous aident pas, ne nous respectent pas, etc. Mais moi, je lui ai dit, est-ce que les pays africains, est-ce que la CAF ont les moyens de crier face à la FIFA? Non, parce que c'est l'argent qui domine ce monde-là. Et la FIFA qui engrange des milliards, voilà, va aussi en donner au président de la CAF, aux fédérations, etc. Donc, à un moment donné, les gens, ils ne veulent pas trop crier. Les joueurs aussi, malheureusement, on ne peut pas trop leur en vouloir parce qu'ils sont payés par leur club. Des millions d'euros. Voilà. Et les clubs aussi en profitent. C'est que juste moi, ce que je trouve anormal, c'est que des gens qui ont été footballeurs, comme Fabregas, l'entraîneur donc de Hassan Diaw à Koum. Voilà, ils savent ce que représente le fait d'aller représenter son pays, le fait d'aller jouer pour son maillot national. Et ça, c'est extrêmement très très fort. Donc, essayer de le priver aux jeunes ou de leur mettre des pressions pour qu'ils n'y aillent pas, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Voilà, surtout venant de personnes qui savent ce que cela veut dire porter le maillot national. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout est fait. Je pense que tous les joueurs ont pratiquement maintenant rejoint leur sélection nationale, leur équipe nationale. Maintenant, place au foot, sur le terrain. Voilà, faites plaisir aux supporters, faites plaisir à votre nation, jouez avec le cœur, donnez tout ce que vous avez. Et puis, juste je rappelle que ce n'est qu'une fête, Richard. Hein. C'est que du football. Hein. Voilà, je l'avais dit samedi dernier. J'espère qu'on ne va pas encore avoir des cas de racisme à n'en plus finir, avoir des agressions, des bagarres, des trucs comme ça. Vraiment, c'est la fête du football. Donc, je pense que ça ne vaut pas le coup, nous les supporters, de s'entretuer, alors que les autres, ils touchent des milliards que nous ne voyons même pas la couleur, quoi. Donc, essayons de nous amuser en allant au terrain, en les regardant à la télévision, mais sans plus que ça ne vaut pas le coup. Ceci me permet aussi de parler d'une chose qui s'est passée cette semaine. Pardon, Richard, ici au Sénégal, en France, deux jeunes Sénégalais qui se sont bagarrés et l'un est mort, l'autre lui a donné des coups de couteau. Parce que tout simplement, c'est de la politique du Sénégal, comme nous, ce que nous faisons, on discute politique. Ces jeunes-là, ils discutent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, un des partisans du pouvoir, de Pastef, de Ousmane Sonko, voilà, a eu maille avec un autre jeune, partisan de notre parti, les nationalistes de Taï Roussar. Voilà. Et tu sais que ça s'effrite beaucoup sur les réseaux sociaux, ça fait des directs. Et le jeune de Pastef, voilà, lui, a été tout simplement assassiné. Donc, vraiment, toutes nos condoléances à sa famille. Mais la morale, ce que je voulais dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent être utilisés avec beaucoup de responsabilité. Parce qu'on sait que la plupart, Richard, des gens qui sont dans les réseaux sociaux, c'est pour faire la course au nombre de vues, du plus grand nombre. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quel est le but recherché quand on va faire un live presque en annonçant sa bagarre? Quand on va faire un live pour essayer d'attirer l'attention des autres sur tel ou tel fait. Est-ce que toutes ces choses-là sont justifiées? Moi, ceci me permet de dire tout simplement que ces hommes, ces femmes politiques doivent faire attention quand ils s'adressent à leurs militants. Parce que aujourd'hui, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Taï Roussar, Abdoumbou, Macky Sall, Aïdou Mbodj, etc., Mimi Touré, mais ces personnes-là, en général, quand ils se rencontrent, que ce soit dans des congrès internationaux, que ce soit dans des, à l'Assemblée nationale ou des choses comme ça, mais en général, ils se serrent la main. Hein. Ah oui, ils discutent, parfois même ils rigolent, voilà, et nous, pendant ce temps, nous les militants, nous le peuple, on va s'entretuer pour ces gens-là? Non, mais réfléchissez, les gars. Non, on n'a pas le droit. La politique est un débat d'idées. C'est un vaste champ de bataille où il n'y a logiquement ni vainqueur ni vaincu. Ce sont les idées. Que chacun puisse apporter son idée. Donc, je me permets quand même de parler un peu de ce nationaliste, Taï Roussar Richard, qui est rentré à l'Assemblée nationale, qui est un député. Je l'ai dit dans cette émission et je l'ai dit plusieurs fois. Il n'aurait jamais dû rentrer à l'Assemblée nationale sur la base de son programme politique. Parce que tout simplement, stigmatiser des communautés, stigmatiser des gens au Sénégal ou les Sénégalais qui sont partout dans le monde. Nous, on est partout dans le monde. Donc je ne peux pas comprendre des gens, même nous ici, on se bat contre le Front National, contre les autres, etc., qui nous stigmatisent. Et nous, dans notre propre pays, on va stigmatiser encore des autres communautés africaines qui sont chez nous. Et le gars qui est devenu député Tahirou Sarr est rentré à l'Assemblée nationale à cause de ce genre de choses. Et le jour où il est rentré à l'Assemblée nationale, j'ai dit « Attention, danger, il y a beaucoup de racistes au Sénégal là, en ce moment. » Comment on va faire rentrer le gars à l'Assemblée nationale? Parce qu'on a voté pour ses idées, parce qu'il est là, il nous parle de la communauté guinéenne, il nous parle de la communauté libanaise, etc., etc. Et c'est trop facile de dire que la personne qui a tué n'a pas de carte dans notre parti. Il ne fait pas part de notre parti. Mais les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des cartes pour pouvoir véhiculer certains types d'idées. Mais vous qui êtes aux manettes, vous qui dirigez le pays, vous qui êtes censé ouvrir les yeux des uns et des autres, vous n'avez pas le droit de tenir certains types de discours. Juste parce que vous voulez être élu ou vous voulez être nommé. Donc vraiment, voilà, c'est désolant. Quand j'ai appris ce décès, ça fait vraiment ça fait du mal. Voilà, ça fait du mal. Et nous espérons que nos politiques vraiment seront encore beaucoup plus responsables par rapport à ce genre de fait. Richard, si je ne parle pas de la baisse des prix de première nécessité comme le riz. Voilà, donc Matarli, notre chroniqueur depuis le Canada, va me tuer. Donc Matar, on applaudit, et moi je l'ai encore dit la fois passée, toutes les baisses sont les bienvenues au Sénégal. Toutes les baisses. Voilà. Ne tchèbe wanyeku, ne doulinbe wanyeku, comment ça s'appelle, le gaz, le pétrole, tout. Toutes les baisses sont les bienvenues. Voilà, parce que c'est dur au pays. C'est vrai, tu m'as parlé de carottes, tu m'as parlé d'aubergines, je ne sais pas quoi, mais quels que soient les légumes, les fruits, les produits de première, les denrées de première nécessité, tout doit baisser. Et si ça baisse, on applaudit et on continuera à applaudir. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on reste unanime et on restera unanime. Voilà, donc Richard, en attendant peut-être un peu de musique. Djedja, je t'avais donné rendez-vous pour ce samedi-là, si tu peux appeler un peu plus tôt, voilà, pour que je puisse te laisser le temps de développer justement sur ce que tu voulais dire samedi dernier et que le temps nous en avait empêché. Donc n'hésitez pas, 04 91 028 10. Voilà, donc en attendant d'avoir l'appel de Djedja, Richard, on part où? Allô, allô?
Oui, salam alaykoum.
Ah, malaykoum, Seigne Medoun. Nakamou?
Aladji, Lamine, nanga def?
Ça va bien?
Lamine, ça va et toi?
Eh bien, yo kayla yi laj, ça va, mba yagi am tan?
Waaw, ça va, non, Sodji, ça va. On écoute, xam nga borom keur mom do teud.
Ça c'est sûr.
Da ngay jog rek forcé quoi.
Mais de temps en temps da ngay dem teju ci neeg bi, tej jël tiabi ji tej ko neub ko. Voilà.
Mang ci mbedd bi rek, sama la né mang ci mbedd bi wax do bëggum.
Bon courage, mais c'est ça.
Mais en tout cas, franchement, comme ni ma la wax, néna na yow da nga bari ay pax quoi. Tay ji ci littérature nga ñu génné et puis à travers la littérature, le fait de se ressourcer aussi, c'est important.
Bien sûr.
Top sa ay origine, xol fi ngay juggé. Donc je pense que c'est important de mettre en valeur toutes celles ou ceux qui, à travers leur connaissance, à travers leur expertise, à travers leur parcours, voilà, ko ci mëna wone rek, voilà, yalla mo lo kay fay quoi.
Donc en tout cas, on essaie, surtout que c'est des femmes qui sont
et découvrir engagé. Une autre facette, voilà, avec le métissage. Franchement, ton invité, c'est le métissage au véritable sens du mot.
Ça, c'est vrai.
Voilà, comme le disait Seigneur, le rendez-vous du donner et du recevoir.
Absolument.
Et puis tu as dit aussi quelque chose d'important, tu as raison de t'alarmer, parce que je pense que quand même, politique, warul mana tax ñuy ray nit quoi. Donc il faut que les gens sachent raison garder quoi. Il faut que les gens sachent que le Sénégal, que le monde n'existe pas depuis 2014 quoi. Il faut que nit ñi déru aussi à l'orthodoxie. L'orthodoxie, moi, elle, bon, la politique, c'est les gérer les affaires de la cité, mais pas la haine de la cité. Mais Diambar, aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée du chemin, quoi. Ça veut dire que les gens, ils se regardent en chien de faïence, quoi. Ça veut dire que beaucoup m'a affaire au gis-gis, yow waro wax, yow tu n'as plus le droit de vie maintenant. Donc, ça veut dire qu'à partir de la politique, le droit de vie et le droit de mort s'instaurent, quoi. Parce que man ahia ou beaucoup nous, il faut que me nyo, il faut que me provoque là. L'autre n'étant pas, n'ayant pas de retenue, il prend un couteau, il plante sur le dos comme ça, mais jambar. L'an mon kofidjar, l'an mon kofidjar. Donc il faut que nous ramenions que ni politique, politique là. Ce fait qu'il y a des bonnes animosités, mais nous ramenons que nous, on est véritablement des sauvages, quoi.
Mais est-ce que, justement, en parlant de sauvages, est-ce que ce n'est pas aggravé par les réseaux sociaux? Parce que, comme je dis, maintenant, on va se bagarrer en faisant un live. On allume son téléphone.
Mais ce que tu dis est tellement vrai. Dès que ça fait plus d'un an qu'il y a eu des débats ou des harcèlements à travers TikTok, à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut savoir, il faut savoir ce qu'il y a. Est-ce qu'on s'en sert pour se développer? Est-ce qu'on s'en sert pour approfondir ses connaissances? Est-ce qu'on s'en sert pour élargir, pour mettre en visibilité des choses bien? Ou est-ce que t'as dit c'est pour la promotion de la médiocrité, de l'insanité, des invectives, des menaces?
Et des règlements de compte, je ne sais pas. Bon, je sais que toi, tu ne regardes pas trop, mais moi, je vois en ce moment les Sénégalaises, mais qui se chopent sur TikTok, qui dévoilent toute leur vie avec des insanités, comme tu dis, et c'est des gens qui sont censés être des stars, Diambar, qui sont suivis, qui ont des millions de vues, mais c'est hallucinant.
Mais ce que tu dis est tellement vrai que moi, franchement, Diambar, à mon Facebook, à mon TikTok, à mon LN, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas dans ce monde de voyez-moi, je ne suis pas dans le monde de partage de la misérabilité. Est-ce que comprendre de déshonorer des gens à travers les réseaux sociaux, il va falloir qu'on revienne à des sentiments meilleurs. Et puis de manière générale, Diambar, c'est de la responsabilité de nos responsables politiques. Parce que qui sème le vent récolte la tempête, comme on le dit. Tu ne peux pas à travers un parti politique promouvoir la haine. Moi, je t'ai dit, je ne peux pas accepter qu'on stigmatise l'autre. Nous, nous sommes des immigrés. Nous, on est là, on n'a pas été stigmatisé, ou si on est stigmatisé, on a la conscience, on est prêt pour se bagarrer psychologiquement, intellectuellement, mentalement, mais pas par des coups de poing ni par des couteaux. À un moment, Diambar, qu'est-ce que tu veux? Quand tu as des partis nationalistes qui se bagarrent sur qui font leur succès que sur la haine de l'autre. Quand tu vois qu'au Sénégal, on arrive à stigmatiser les Guinéens, à stigmatiser les autres. Man Diambar, je suis né à la Médina, marché Tilène, la Judo. Le carrefour de tout un monde. Donc, nous avons des Guéwel, des Diola, des Ndiago, des Guinéens, des Tukulor, des Dara. Nous avons des gens qui ont des gens qui ont des. On partage tout. Man, lola, yarochi, lola, yarochi, lola, magé.
Donc, non, mais il y a le discours, ce que tu dis, et il y a la réalité du terrain où justement les Sénégalais mettent quelqu'un député à l'Assemblée nationale par rapport à ça.
Mais c'est ce que je te dis. C'est aujourd'hui. Faites pour que les gens ne soient pas capables. Ben, y est-ce à ses buts, à ses fins. Mom lañuy def mais bu le faté nek ni koku pastef la ñëk amal contradiction alors que ñom ak pastef au début tout allait mais le mec quand il a compris qu'il fallait qu'il se démarque lui le souvenirisme est-ce que comprendre li mala mom il l'a appuyé par rapport au nationalisme. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont intelligents, ils font l'analyse de la situation politique, ils se disent fan la mëna jaar pour me singulariser. C'est des gens yo xamné gëmuñu li ñuy def. Toujours le même discours. L'autre, les passeports, le ci, le ça. Écoute, si le monde aujourd'hui, si les pays occidentaux, européens, américains récupèrent le nombre de passeports qu'ils ont donné au Sénégal, et nous, fan la ñu dem.
C'est sûr.
Non, il faut arrêter, Jambar. Il faut arrêter. On est dans le monde de Léopold Sédar Senghor. Le monde du donner et du recevoir. L'angama indi lanla la tek yow, l'angama indi l'angama tek ñu and dans le métissage comme ils se sont trucs.
Ben,
nit ki mën nga gëm li nga gëm, doon li nga doon, te du tax nga xalat keneen ki. Voilà, man Jambar, man ay affaire yoy gëwuma ko, man ay ki li la kene la la ki la. Non, ñun gëmuñu lool parce que suñu parcours mënuñu ñu ko may.
Tout à fait. Justement, tu as parlé de tay suñu nangor suñu passeport fa lañ jëm. Donc tu as applaudi pour cette journée du 17 décembre que le président de la République et son premier ministre ont mis en place.
Non, 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 Jambar, c'est des conneries.
Ah non,
c'est des conneries. Non, non, xam nga lutax.
Ouais.
Non, xam nga lutax. Xam nga lutax. Man ay journée de la diaspora. Jambar, c'est que le principe il est biaisé dès lors que c'est pas politique. Quelles sont les références, quels sont les termes de référence qu'on a mis en branle pour pouvoir inviter les gens? De la même manière que je fustige ces choses, c'est de la même manière que je fustige les FES. Parce que ce ne sont que des moyens de promotion
le
FES, de militants
le fonds d'aide
politiques.
À, je sais pas, initiative de Sénégal
voilà.
De l'extérieur. Oui.
Voilà, c'est des manières de financer. Nous avons fait des fonds. Ablaye Wade Mok Fidjeke, Macky Sall, Ndiaye Koffi, Tayji, Nyinou Ngueu. Man Jambar, quand je te dis qu'ils financent des gens qui n'ont même pas la carte d'identité sénégalaise.
Ah bon?
Oui, j'ai vu des gens être financés dans l'ancien système qui n'avaient même pas la carte d'identité sénégalaise. Man, qu'on finance un Sénégalais pour un retour par rapport à un projet au pays et que l'argent soit visible au portier, disponible à partir du pays et que Khalis bi dugg ci dekk bi nit ñi partager ko, je suis d'accord. Mais Jambar, nak ngay ñé fekk ko am fi salon de coiffure nga ñew ne ko que ni dama lay financer pour nga yok sa salon koku amul sax. Mais non, il faut qu'on arrête Jambar, fi gis na ci lu né. J'espère que, j'ose espérer que Fez, ils se sont inspirés des manquements du passé pour pouvoir nous def. D'autant plus que Fès, il y a une semaine, je pense qu'il y a eu une réunion. Mais je pense que la radio a toujours été là pour servir à promouvoir ces rencontres, à rendre visibles les choses et à être transparent avec tout le monde.
C'est vrai qu'il y avait l'administrateur du Fès ici, Khouré Chicham, l'ancien basketteur.
Mani, dès que je suis là, à travers le consulat, nous sommes sur la radio, nous sommes sur la réunion. Je ne sais pas. Donc à un moment, si fait qu'il y a que la rupture dañ ko bëgg wax, moy rupture moy xam nga lan ni ñeneen ñi doon def té baaxul. Man je m'en inspire mais damay def lu gën li. Donc duma def li ñu deful woon. Et quand on voit suñuy wote jubal jubanti, dañu wara clair sur toute la ligne parce que c'est les deniers publics des Sénégalais et je pense que tay Sénégal soxla nañu leneen luul ñuy jël seen ay dërëm yi ñu am. Diko financer des gens qui sont ici, man je suis contre. Voilà, man je suis vraiment contre. Ce fait qu'on est que c'est pour nous, ni ici de Keba, am un projet d'industrialisation, un projet de commercialisation, un projet qui puisse faire que ça va booster l'emploi, man je suis d'accord. Mais quant à Indi Khalis Sénégal, nous diko financer ay nit ñu nek fi, andu ma ci tay, andu ma ci suba. Pour finir, je pense que notre président de la République, il va falloir que les Sénégalais reviennent franchement à la normalité. Quand un président doit aller dans une région et qu'aujourd'hui on dit qu'on va tout faire pour pourrir le président durant cette tournée du MEDEF.
Ah, tu parles de la journée tournée économique du président de la République.
Mais quand d'autres te disent qu'il faut qu'on sabote la tournée du président, mais Jambar, est-ce qu'on sait ce qu'est un président?
Mais il veut aller à Ziguinchor et Ziguinchor, c'est le fief de Sonko.
Mais nous, les responsables là-bas sont en train de se battre parce que nous, ni organisé arrivé président de vie, ni cher Sonko, qui jamais la nuboque, ben qu'on va pourrir la vie. Mais Jambar, ça ne nous dit ni moi ni aïe diamante qui m'aide lui, ni moi ni aïe gagnante qui m'aide lui. Mais Jambar, nous devons se battre ici. Aïe réalité quoi? La réalité, moi, je suis le bon voisinage, le vivre ensemble, le fait de vouloir construire quelque chose de commun. Pour l'intérêt de tous les Sénégalais, nañu arrêter tiaxan bi. Tiaxan bi mu ngi bëgg bari ci suñu dëkk bi quoi. Ñu fim nek ni, tu l'as dit, yo wañi nañu ciëb bi. Alléluia. Mais c'est le tri ordinaire qu'on a diminué. Moy ciëb bi nek Sénégal.
Ah, ma mëd nañu wañi rek.
Non, sante Yalla. Nañu wañi. Mëna am lek ciëb parfumé. Mais nga jënd ko li ngui koy jëndé, ki nga xamné ciëb ordinaire bi mom la am. Mu dem jënd ko, d'autant plus que tay ji on exige aux importateurs de riz que voilà nous jende commande tiers parfumé, il faut nous jende tiers bobu. C'est bon, ça va booster l'économie locale, ça va booster les agriculteurs, ça va booster ñi nga xamné ñu ngi ci tiers bi, ça va booster l'économie. Donc moi je suis d'accord Jambar, nañu wañi lu ñu wañi baxna lu ñu wañi rek na ñew. Alléluia.
Allez jajeuf.
En tout cas,
merci. Allez, beaucoup. Merci. Voilà, donc merci beaucoup, Seigneur Medoun. Donc, Richard, on monte directement au Canada pour voir mon ami Matarli, celui que je soutiens, celui avec qui vraiment on est sur la même longueur d'onde et que justement j'ai toujours un plaisir à lui dire que Ousmane Sonko, c'est l'homme fort du pays. Bonjour, Matar.
Tu n'es pas content, il faut arrêter ça. Non, écoute, je vais te dire une chose. Je suis parfait en phase avec la coalition aujourd'hui. Sur certains points, quoi. Ah, une nuit, Médoun, pour faire quelque chose, il y a un peu de temps à faire. Pour la narration, la mine, moi, la mine, on j'avais le gel de faire ce paquet pour Bagnéo parce que Joran de Amon, il faisait partie des 20 personnes les plus qui.
Ah, c'est vrai, les plus influentes au monde.
Lamine, on a pris un premier ministre très fort, un premier ministre parmi les 20 personnes les plus. Il y a une fois Macky Sall, il y a une fois Senghor, il y a une fois Abdou Diouf, mais Joran, il faut rendre à César.
Non, non, mais c'est très bien, c'est important. C'est absolument important.
Non, mais tu n'en as pas parlé.
Mais parce que mais tu fais partie de l'émission, je sais que toi, tu vas me parler.
Non, c'est pas la mine, c'est pas vrai. Arrête ça, s'il te plaît. Tu es beaucoup mieux que moi, parce que je suis
de bonne humeur, mon choulo.
Non, écoute. Ouais, mais doucement. Fin de fait, ça fait deux semaines, il y a du tissot, les filles, tissot, dans la gueule. On va en aller, il y a rien. Tu n'as rien. Qui a fabriqué parce que il y avait des événements positifs pour moi. Légui nak tu as fait xam nga rek yow boy boy colobar ni def dugg bir colobar jël autre javel def ci touti
sacré
boy la mais on se connaît xam nga anyway
wa ben deuk baangi dox def fum nek ni mom gaangi wañ yépp
machallah lamine machallah Jordan et son gouvernement. Nous sommes en train de faire du très bon travail. Il faut apprécier.
Non, on apprécie surtout Taïdi, président d'Edem Casamas. Donc, on va faire des nerfs.
Oui, Lamine. Mais le président d'Edem Casamas, oui, c'est le fief de Joron. Déjà, il y a une sanière. Oui, c'est le fief de Joron. Joron leur a dit de bien l'accueillir. Vrai ou faux? Il a parlé, vrai ou faux?
Il a parlé, vrai ou faux?
Non, Lamine, qu'est-ce que c'est? Il a dit que de bien l'accueillir. Mais c'est son mot, Lola.
Ouais, mais boy, passez vite, pas gagné.
Non, tous. Lamine, doucement, boy, dégueulinko ou le dégueulinko. Holland, FDR, 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 deuxième par Khalifa Sall. Dégueulinko, wajé combattre Jordan. Lamine, quand on a eu une conférence de presse, xam nga live, ñaar personne mo nekkon, 60
personnes.
Bu jëlé rek ci 75 personnes en live. Le, écoute-moi bien.
Parce que moi, FDR, nous sommes liés, les gars. Boy militaire, nous sommes
liés. Lamine, il faut arrêter. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Le Sénégal, il n'y a pas d'opposition au Sénégal.
Mais Matar, est-ce que vous allez poser une question? Pourquoi toi, tu te focalises sur l'opposition au lieu de te focaliser sur les résultats de Sonko, sur ce qu'il fait? Moi, j'aime bien t'entendre sur ces choses-là.
Ils sont en train de travailler, vous voyez les résultats. Ils ont une essence, ils ont un gaz, ils ont une chip. Lamine, qu'est-ce que vous voulez là?
Non, mais on est d'accord.
Doucement.
Mais oh, arrête de me harceler quand même. Moi, je te parle correctement. Arrête de me maculer.
Anyway, je suis en phase avec toi, c'est affaire où Taïe Roussar. Vraiment, ce gars-là ne devait pas aller à l'Assemblée nationale. Le gars, Lamine, il a dit, de mon côté, il a fait une interview, il a fait un sandaga. Il l'a frappé. Il a 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 frappé. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave. Comme Linga Ouhali, il prétend à diriger le pays. Ces gens-là ne doivent pas être dans notre groupe, whatever. Mais il a été élu. Donc,
Ah, mais il faut le prendre bien, parce que cela veut dire que c'est du bire, amener du bire, on va dire, on va dire.
Mais Lamine, je suis parfaitement d'accord avec toi. Lamine, moi, j'ai habité dans trois grands pays. France, États-Unis, Canada. Est-ce que tu comprends? Ce fait qu'on nous donne marginalisé comme nous, est-ce qu'on pourrait vivre là-bas? Est-ce que si nous passons pour les gars, ils nous récupèrent, comme tu as dit avec Médou? C'est vrai, c'est la vérité. Hein? Un privilège, quand même, il faut qu'on respecte. Et nous, on est de grec. Il faut qu'on respecte. Non, c'est pas du tout bien.
D'accord.
Nous, nous sommes au Sénégal, du que Guinéens, à la mine, nous sommes les Maliens, nous ne pouvons pas beaucoup séparer. C'est pas bon. Sénégal, ben peuple, qu'est-ce que nous nous faisons? Un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Le gars là, le message qu'il véhicule, c'est pas un bon message pour le pays. Bahoul, c'est pas bon.
D'accord.
Un message diviseur, c'est pas du tout bon. Bahoul.
Je pense qu'aujourd'hui, on est en face surtout en plus, si je vais te dire de parler de football, le sport que tu maîtrises, on est vraiment ensemble en ce moment. Oui. Voilà, j'ai l'impression que je vais aller à Pastef, moi, en ce moment.
Non, c'est le contraire. Moi, je vais venir à la coalition.
Ouais, mais dis-moi justement, alors comment tu vois notre équipe nationale là, avec ce qui s'est passé, surtout que vraiment le pays lui a rendu un grand hommage, donc avec le Tagoto au stade.
Mais Lamine, est-ce que tu as vu le Tagoto? Moi, je pensais que c'était la finale de la Coupe d'Afrique.
C'est vrai.
Jury, ça se l'enlende. On les a, franchement. Le stade était tellement plein à Sikoi. Vraiment, le Sénégal est derrière l'équipe. Le gouvernement
mais justement, Matar, toi qui es ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, quand vous étiez en face de ces genres de choses-là, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes maintenant en compétition? Est-ce que ces images-là, ils reviennent en tête? C'est une pression? Ça vous, c'est un obstacle? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous ressentez durant ces moments-là?
Il y a beaucoup de pression, l'ami. Il y a beaucoup de pression. Il y a des jours, ils peuvent surmonter la pression. Mais c'est une pression extraordinaire. Maintenant, il faut avoir un mental, un très bon mental. On a joué une finale de Coupe d'Afrique à Alger. Lamine, SRB, Mingi, Fes, Beytour, nous avons 500 supporters. Mais, demi-finale, du moins. Mais Lamine, si vous avez sur le terrain, le drapeau national, c'est quelque chose. Et tu sais que notre cri de guerre, c'était quoi? Ça va, Tembadjeh, Fouyamneh, ben match là, on va jouer le match là chez eux, on va les battre. Les plus nuls, ils ont considéré que Dieu nous a dit qu'on a gagné le match avec vraiment succès. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une pression. On a une très bonne équipe, Lamine. On a une très bonne équipe, de très bons joueurs. Mais avoir de bons joueurs ne veut pas dire avoir une bonne équipe. Il y a une différence entre une équipe et des joueurs. Les joueurs, Sophie Kenny, tu as, par exemple, Aliou Cissé, il avait un bon mental, cette équipe. Bon, il est beau, mental, là, voilà, parce que mentalité, bon, là. Le coach là, il est très bon, mais je ne connais pas mentalité, s'il y a une circonstance, parce qu'il y a beaucoup de fois, tu comprends? Parce que coach, il est paniqué à la mine. Je te dis une chose. Les coachs, dans certaines situations, ils paniquent.
D'accord.
Complètement. Ils perdent complètement les pédales du moins. Maintenant, on a de très grands. On a un grand joueur, Sadio Mané, qui a tout gagné. C'est important. Un joueur comme Sadio, il faut battre cette équipe. Parce que si l'affaire est nyangé, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de ragal, tu comprends? Ce qu'il doit gagner, il doit gagner. C'est un jour.
Merci.
Une pièce maîtresse de l'équipe. Mais je te dis une chose, Lamine. On est favori. On est parmi les favoris. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Les matchs se gagnent sur le terrain. Les matchs.
Ça va. Tu vas jouer contre Botswana, tout ça. Commence pas à nous mettre des pressions inutiles. Hein? Voilà.
Non, il n'y a pas de pression, Lamine. Je ne sais pas ce que je veux. Nous, biñi basket amna yene équipe ay Botswana basket non ñoo dañ leen di gagner on les gagne ya lool la bëgg expliquer amna équipe yo xamni xolal bul ñéssé ak ñom tu viens tu dois les battre. Mentalisé, c'est ça que tu dois amener. Chaque match doit être une finale, tu gagnes. Parce que compétition, c'est 4 matchs après accéder à phase éliminatoire.
Okay.
Mais moi, j'ai confiance à cette équipe-là.
Allez,
mais
nous avons tous confiance. Merci beaucoup et on rêve voilà, d'une finale Maroc-Sénégal.
Bah, Inch'Allah, mais là, il faut aller jouer à Lamine. Il n'y a pas de rêver, il faut jouer.
D'accord.
Il faut jouer. Il n'y a pas de rêver, il faut aller jouer.
Merci.
Voilà, tous les matchs sont importants. Waouh, ok, bah, ma baye, ouais, mais aujourd'hui, je suis avec la coalition, là.
Bon, ça va, alors. Allez, Djadjo Sawarek. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Matarli. Et d'ailleurs, j'essaierai samedi prochain d'avoir au moins un envoyé spécial, Richard, depuis le Maroc. Hein, on a beaucoup de journalistes sénégalais, donc voilà, j'essaierai d'en avoir un ou deux. Allez, on enchaîne. Allô, allô.
Allô, Lamine.
Oui, bonjour.
Bonjour, Khadim Boy de Bordeaux.
Khadim, comment va?
Ça va très bien.
Nakamo?
Ça va quand tu me barres. Ah, Marseille.
Sénégal, mais il est nerveux. Tout a été diminué par le nouveau gouvernement là.
Non, mais ils ont diminué le riz pour les moutons, donc c'est normal.
Oh, comment ça le riz pour les moutons? Arrête de parler comme ça. Moi, d'ailleurs, je mange ce riz là quand je suis au Sénégal.
Non, c'est pas le même riz. Le riz qu'ils ont annoncé et le vrai riz, c'est pas le bon. Parce que simplement, on a un régime incapacitant. Parce que, comme Medoun l'a souligné avec le 16, ben, ils sont venus à Bordeaux, ils ont fait leur réunion en catimini. Il n'y a pas de rencontre avec les Sénégalais. Ils ont choisi comme ils ont voulu et ils ont donné leur chèque comme ils ont voulu.
Ah bon, il n'y a pas eu des critères pour donner...
Mais je te dis, je suis à Bordeaux et quand même, Bordeaux quand même, je pense que je suis assez réseauté dans cette communauté.
Je rappelle que tu étais ou tu es le président des ressortissants sénégalais de Bordeaux. Hein.
Comment?
Je pense que tu étais ou bien tu l'es toujours président des ressortissants sénégalais de Bordeaux.
Je suis président d'honneur et je l'ai été président titulaire pendant 6 années, donc je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent à Bordeaux. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'échappent.
D'accord.
Mais ceci dit, donc, j'ai vu des photos sur une page Facebook et ils ont dit que oui, ils étaient venus, ils ont donné des chèques, sur quels critères. Comme Medoun l'a dit, ils ont rien analysé, ils ont refait la même chose qu'ils critiquaient soi-disant, qu'ils distribuent des chèques à ceux qu'ils choisissent.
Mmh.
Bon, en tout cas, tu sais, ce régime-là, ils ont juste un catalogue d'intentions, ils passent leur temps à faire des journées et des manifestations, les journées de la diaspora, avec qui ils l'ont fait?
Ah mais justement, j'aimerais que tu en parles, toi qui es très actif au niveau de la diaspora. Est-ce que tu as été contacté, il y a des échos ou comment ça s'est fait?
D'une part, bon, je pense que comme ils savent que je suis de l'opposition, ils ne vont pas me contacter parce qu'ils n'acceptent pas l'esprit critique. Et je vais juste souligner qu'Abdou Sonko, qui est le député de Lyon, on était les premiers à organiser, à former le bureau des fédérations des Sénégalais de la diaspora sous Macky Sall.
Mmh.
Et que lors de notre première rencontre de la diaspora qui s'est déroulée à Washington, c'est Macky Sall lui-même qui a financé, en tout cas l'État du Sénégal, Macky Sall, qui a financé la rencontre internationale à Washington, où il y avait même le pape Alouan qui était venu le couvrir. Nous, en France, c'était Boubacar Benzeloun qui était allé nous représenter. Donc c'était quelque chose transpartisan. On n'était pas là en train de regarder qui était qui. Et Abdou Sonko a formé le premier bureau des fédérations des Sénégalais de la diaspora, région Europe du Nord. C'est là où est arrivé le découpage qui ont permis d'avoir les députations sous cette forme-là.
Mmh.
Donc, quand ils l'ont organisé, ils n'ont pas associé les associations sénégalaises de la diaspora. Particulièrement, j'aurais espéré que la France et l'Italie, voire l'Espagne, jouent un rôle moteur parce que c'est l'Italie, c'est les immigrés d'Italie qui envoient plus d'argent au Sénégal que les immigrés de France. Donc ils pouvaient au moins se référer à certaines choses pour dire, bon, comment on les associe, ou bien la diaspora elle-même, depuis l'extérieur, comment on fait que ce soit leur journée pour qu'ils s'approprient cela, essayer de présenter un catalogue de projets et de programmes pour nourrir les idées du gouvernement, mais ça ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait leur cocktail entre nouveaux élus de la République, parce que maintenant, quand vous voyez les élus de Pastef, ils font la bamboula tout le temps. Ils sont dans des selfies totales, ils sont dans des restaurants, ils sont dans des balades, zéro projet. Donc, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout, un catalogue d'intentions, un président, un premier ministre qui se balade sans projet, sans perspective.
Donc, à l'avenir, il faut vraiment que cette journée soit mieux étudiée, quoi.
Non, c'est qu'en fait, il conçoit mal les projets, les petits projets qu'ils annoncent, mais il les conçoit mal. D'une part, regarde la journée des tirailleurs. Maître Abdoulaye Wade avait validé avec l'État français le 23 août. Donc, il y avait les structures de l'armée, les préfectures et les communes où il y a les tombeaux des tirailleurs sénégalais qu'on puisse organiser cette journée-là. Et donc, des réunions intermédiaires et préparatoires étaient possibles pour que tout le monde puisse s'organiser et rendre hommage dignement. Là, le régime actuel est arrivé. Il a balayé cette date-là, il a remis en place une date qui est pour les tirailleurs des Tcharoï, comme ça, sans consultation, par décret présidentiel. Et ce qui fait que finalement, aujourd'hui, au niveau de la France, on n'arrive plus à faire les deux commémorations en même temps. Parce que tu ne peux pas faire le 23 août, après tu viens encore faire le 17 novembre. Mmh. Et donc finalement, on est obligé d'avoir 5 dates de commémoration, ce qui est impossible pour les militaires et les autorités préfectorales, pour les autorisations, pour la planification, pour que les porte-drapeaux soient là, pour que les mairies soient là, pour que l'État même, d'ailleurs l'État même, c'est les associations qui imposent même le consulat d'être là. Par exemple, à Bordeaux, notre dernière commémoration du 11 novembre. Le consulat n'était même pas représenté. Ah. Soit disant, c'est le vice-consul qui devait le représenter. Il était au Sénégal pour faire le terrain meeting. Il est rentré la veille. Son discours, il ne l'a pas donné. Et finalement, les gens qui représentaient le consulat, ils étaient là, ils n'avaient pas de discours. Donc, le président de l'association qui a pris mon relève, je dis, mais où sont les autorités sénégalaises? Ah non, ils ne sont pas venus. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la radio. Mmh. Mais la seule chose qui les intéresse, quand il s'agit de faire du bamboula pour la terra meeting, ils sont là-bas. Quand il s'agit de faire du 7 décembre pour la journée des diasporas, ils ont le billet, ils sont au Sénégal pour montrer des photos. Mais par contre, pour travailler, rendre hommage et représenter dignement le Sénégal, il y a...
C'est personne. Vrai que ça, c'est pas normal. Personne. Merci beaucoup, Seigneur Khadim.
Merci encore. Bon week-end à Daoud Ali.
Merci, Djadjouf. Ciao. Voilà, donc c'est vrai que le 17 décembre, je continue à penser que c'est une très bonne chose, cette date voilà, qui a été instituée par le président de la République. Mais c'est vrai, il va falloir peut-être le travailler davantage parce que c'est bien de faire des discours. Vraiment, c'est bien. C'est bien aussi qu'on consacre, nous, les Sénégalais de la diaspora, voilà, une journée. Voilà. Mais à un moment donné, il faut que ça débouche sur du concret. Et là, d'ici le 17 décembre 2026, j'espère que nous aurons les machines de fabrication de passeports dans tous les consulats généraux du Sénégal qui sont dans le monde. Oui, pour aider les Sénégalais de la diaspora, la première des choses, c'est les Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui ont des problèmes de passeport. Ça ne devrait plus être un problème. Donc les discours, on en parle, ça fait des années qu'on en parle. Mais on n'en a pas. Nous, ici à Marseille, on n'en a pas. Il faut se déplacer jusqu'à Paris pour le faire, si vraiment tu es pressé. Sinon, il faut aller tout simplement à Marseille, qu'on fasse l'enregistrement, on envoie tout à Paris le temps que ça arrive. Voilà. C'est la même chose en Italie, un peu partout dans le monde. Donc, il faudrait que l'État du Sénégal investisse sur les machines de fabrication. Je rajoute, il y a des problèmes d'assistance juridique. Combien de Sénégalais sont assassinés dans la diaspora et en général, bof, voilà, on rapatrie le corps, on n'en parle plus. Ça aussi, il faut que l'on puisse être aidé par nos autorités en mettant en place une certaine assistance juridique sur les affaires. Voilà. Et d'ailleurs aussi, c'est l'occasion de le dire, parce que cette émission est écoutée dans les prisons, Richard. Et nous avons beaucoup de Sénégalais. Je ne vais pas dire les prisons parce qu'il y a des Sénégalais qui m'appellent au téléphone et qui sont en prison. Voilà. Et qui sont très contents de nous entendre. De me dire, grand, quand on vous entend, le fait d'écouter la Radio Galère le samedi, ça nous fait du bien. Et souvent, je leur dis, ok les gars, mais ça vous fera encore plus de bien quand vous serez dehors. Voilà. Donc faites de votre mieux pour être dehors. Et puis voilà, on pense très fort à vous, on vous soutient. Voilà, il va falloir aussi qu'on parle à un moment donné du problème du rapatriement des corps. Il faut parler de l'expertise sénégalaise au sein de la diaspora. Il y a plein de choses, mais comme je vois que Eric et Jacques, ils sont là, ça me fait penser à Étienne, et donc je suis obligé d'arrêter. Bon, on en discutera samedi prochain, mais la journée du 17 décembre consacrée à la diaspora, c'est un débat quand même. Merci Richard, et à samedi prochain.
Oui, et puis aussi joyeux Noël à ceux qui le fêtent.
Ah, pourquoi? Après, ce sera Noël avant samedi?
Eh oui.
Ah d'accord, bon, ben joyeux Noël à vous. Ciao, ciao.
Bul fatte korga, bul fatte korga, te finger judo, a guy finger yoro, te mice mi jai, te ki fi dohan kune ye. Oni jai dal na ji. Oni jai duk na ki. Oni jai nap na ki.
Gonna be